pourquoi nous avons choisi ce thème, évidemment, vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais avant cela même, avant la publication de ce rapport Sauvé, qui a mis en lumière un certain nombre de drames dans l'Église, avant cela, il y avait eu un certain nombre de révélations aussi dans l'Église. Avant cela, pour certains, aussi l'élection du pape François et pour certains milieux, il y a des incompréhensions sur le gouvernement dans l'Église. Donc ça s'accumule. Il y a un certain nombre de choses qui se sont accumulées, plus la manière dont les médias, certains avec bienveillance, d'autres avec moins de bienveillance, parlent de l'Église, plus la manière dont vous avez à vivre ou non votre foi dans le monde, ça fait une certaine accumulation qui crée, dans le moins pire des cas, pour certains, une forme d'indifférence. Bon, moi, je vais à l'église le dimanche, je vais à la messe le dimanche, mais je tiens mes distances. Pour d'autres, de la colère, et pour d'autres, de la méfiance. Voilà. Ce qui nous rend un peu schizophrènes. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que dans le catéchisme de l'Église catholique, nous disons, tous les dimanches, « Je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique et romaine. » Sainte. Je crois en l'Église sainte. Alors, quand on voit les chiffres du rapport Sauvé, on se dit, elle est où la sainteté de l'Église ? Est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène ? C'est quoi dans ces cas la sainteté ? Quand on dit que l'Église doit être la lumière du monde, la lumière des nations, et quand on voit ce que les médias peuvent projeter de l'Église dans la société aujourd'hui, comme dit le pape François, qui nous invite à prier pour qu'elle soit une maison plus sûre, on se dit, oulala. Vous voyez, alors, et puis avec cette question, c'est ce sur quoi je voudrais m'arrêter ce matin, mais au fond, l'Église, c'est qui, c'est quoi ? Quelle est votre place par rapport à... Vous avez l'impression que vous êtes autant membre de l'Église qu'un prêtre, qu'un religieux ? Qu'est-ce qui fait l'appartenance à l'Église ? Est-ce que l'Église, c'est d'abord et avant tout une institution ? Est-ce que l'Église, c'est l'ensemble des saints ? Est-ce que j'appartiens autant à un pays qu'à l'Église ? C'est quoi le type d'appartenance que je peux avoir à l'Église ? Vous voyez, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser à l'égard de l'Église aujourd'hui, et c'est sur ça que je voudrais m'arrêter pour, je l'espère, vous aider à mieux aimer l'Église, et pour mieux aimer l'Église, il faut mieux la connaître. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que notre mode de connaissance de l'Église, alors, il est venu de notre éducation, notre formation, mais malheureusement, je dirais, ce qui nourrit notre regard sur l'Église, c'est le regard journalistique, qui apporte des choses, et à la limite, quelquefois, les journalistes sont un peu provocateurs, mais leur provocation nous oblige à regarder des choses en face. Et s'il n'y avait peut-être pas les médias, donc oui, quelquefois, ils disent pas, on pourrait dire, ils sont pas gentils avec nous, mais en même temps, ils nous obligent quelquefois à regarder, et en tout cas, à faire la vérité sur ce qui a été un véritable drame. Et vous voyez, je posais la question au séminariste sur ce fameux rapport, je vous dis pas que tous doivent le lire, mais certains sont complètement, c'est pas mon problème. Il y en a parmi vous qui ont dit, c'est pas mon problème, je suis pas touché. D'autres, au contraire, se sont laissés submerger par ce qui a été dit, et d'autres... Or, j'insiste là-dessus, vous êtes autant membres de l'Église que ceux qui ont été victimes, malheureusement que les agresseurs, que moi, que chacun d'entre nous. Et donc, on ne peut pas faire comme si on n'appartenait pas à cette Église. C'est par notre baptême que nous appartenons à l'Église. Et le fait de ne pas regarder les choses en face, c'est une forme d'indifférence. D'abord, ça pourrait nous éloigner de ce que nous avons reçu de l'Église. Je ne sais pas si déjà vous êtes déjà dit, tiens, si je n'étais pas chrétien, qui je serais aujourd'hui ? Si je n'avais pas été baptisé, confirmé, si je n'avais pas reçu mon éducation chrétienne, si je n'avais pas eu toutes ces eucharisties, toutes ces confessions, quelle personne je serais ? Alors certains se disent peut-être, moins de culpabilité, plus de tranquillité, je pourrais vivre comme je veux. Vous voyez, je pense qu'on s'est tous fait à un moment donné, quand on était jeune, ce raisonnement. Sans éducation chrétienne, beaucoup plus de tranquillité, moins de problèmes de conscience, moins de culpabilité, bref, plus de liberté. Vous voyez, chacun d'entre nous a pu se dire cela d'une manière ou d'une autre. Mais c'est sans compter Et c'est peut-être ce sur quoi je veux nous arrêter ce matin pour aimer l'Église, mieux la connaître. Et donc, la question, c'est de dire, mais en fait, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Comment je pourrais la définir? Alors, vous savez qu'au Concile Vatican II, c'est-à-dire le concile qui a réuni, c'était dans les années 60, tous les évêques du monde, ils étaient plus de 3000 réunis ensemble, se sont réunis et une des premières choses qu'ils ont fait, et je vais vous lire un de ces numéros qui va tout de suite vous faire comprendre les choses, nous plonge, et c'est ce que je voudrais faire, de porter un regard de foi sur l'Église pour l'aimer, ou l'aimer davantage, pour prendre conscience de votre responsabilité dans cette Église, voilà, et aussi pour ne pas nier et de pas mettre de couvercle sur la provocation et ce que le monde, aujourd'hui, dit à l'Église, ou reproche à l'Église. Vu que l'Église, vous voyez d'ailleurs, c'est toujours ça qui est ambigu. Quand je dis l'Église, je dis qui? Je dis les gens de l'Église, les membres de l'Église, les prêtres, les évêques, le pape. Je parle de qui quand je parle de l'Église? Quand je parle du pape François, je parle de qui? Je parle de quelqu'un qui est loin ou je parle de celui qui est à la tête de cette Église? Parce que quelquefois, vous voyez, j'entends des chrétiens critiquer le pape. Je dis, si vous critiquez votre père quand vous êtes en train de critiquer le pape, ce n'est pas un bon sens de la famille que vous avez. Hein. Ça m'inquiète. On peut ne pas être d'accord avec tout. On peut ne pas tout comprendre. Mais une chose est de ne pas comprendre. Une chose, avoir du mal avec certaines choses. Une autre chose est la manière d'en parler, de se positionner. Et je le dis quelquefois à certains prêtres, vous voyez, en disant, comment vous pouvez critiquer le pape et dire, être prié pour le pape tous les jours lorsque vous célébrez la messe. En disant, je prie pour le pape François. J'avoue qu'on n'est pas loin de la schizophrénie à ce niveau-là. Hein. On a le droit. Enfin, nos réactions, je dis toujours, ce qu'on ressent, nos incompréhensions, ça, je dirais, ça fait partie de la vie. On a le droit de ne pas comprendre ses parents, on a le droit de ne pas comprendre une décision. Mais une chose est de ne pas comprendre, une chose est que ça fasse souffrir, voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais une chose ensuite, c'est la manière dont on juge. Et là, surtout, quand on juge, je dirais parce qu'on a, d'abord, on n'est pas à la place de ceux qui prennent les décisions, et puis ensuite, dans cette posture-là, d'une certaine manière, par rapport au jugement qu'on pourrait porter sur le pape aujourd'hui, on ne sait pas tout ce qu'il porte, et en plus, un certain nombre de personnes le critiquent sans le lire, ou alors juste à travers ce que les médias en disent. Donc, j'avoue que je ne comprends pas. Et vous voyez, donc dans l'Église, c'est ça, je dirais, qui est un peu un réflexe. C'est est-ce que je vais à la source ou j'en reste un regard journalistique? Je suis sûr que parmi vous, si vous avez été un peu bousculé par les scandales dans l'Église, et je le comprendrai, parce qu'il y a des scandales dans l'Église, vous avez tous eu ce réflexe, je n'en doute pas une seconde. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de sortir? Ce que je suis en train de sortir, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Alors, dans ce catéchisme, vous savez, il y a un commentaire du credo. Le credo, c'est notre foi, c'est-à-dire ce que nous croyons. Et il y a un article qui s'appelle l'article 9, qui s'appelle « Je crois en la Sainte Église catholique ». Et alors, dedans, il y a plein d'explications. Il y a plein de choses qui nous disent qui est l'Église. Ça ne va pas tout résoudre. Ça ne va pas faire que certaines choses, vous voyez, certaines douleurs. Quand je vois, moi, par exemple, cette douleur, le fait de se dire, tel que le rapport le rappelle, qu'il y a eu plus de 3000 prêtres et religieux qui ont été des véritables prédateurs dans l'Église, j'avoue que ça suscite en moi une colère immense. J'avoue que quand je vois qu'il y a eu autant de gens qui ont été blessés dans cette Église qui se veut une maison sûre qui ne l'a pas été, j'avoue qu'on... D'abord, je me retourne vers Dieu en me disant, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, d'une certaine manière, je me dis que le monde qui a fait cette analyse et qui nous oblige à le regarder en face, il y en a eu dans l'Église des périodes de scandales, il y a eu des papes qui n'étaient pas des saints, si vous regardez la Renaissance. Donc notre histoire, l'histoire de l'Église, elle est faite de sainteté et de misère. Et donc, ça nous est rappelé dans le catéchisme de l'Église catholique que l'Église est à la fois visible, une société humaine et spirituelle. Mais le risque, c'est qu'on en reste à la partie seulement visible. Et vous voyez, l'Église, en ce texte, dit « L'Église elle-même enferme des pécheurs dans son propre sein. Elle est donc à la fois sainte, c'est ce que nous professons, je crois en l'Église, sainte, est toujours appelé à se purifier, poursuivant constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Oui, dans l'Église, il y a des saints et des pécheurs. Oui, dans l'Église, et nous-mêmes, nous sommes saints et pécheurs. Il y a dans le secret de notre cœur une division interne qui fait qu'une partie de notre cœur appartient à l'Église et une partie n'y appartient pas. Et donc, dans cette manière de se positionner, si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous sommes du Christ, nous allons voir que dans le projet de Dieu, du Christ qui est venu parmi nous, c'est l'image qui est donnée, l'Église a été voulue par Dieu, elle a été voulue par le Christ, et il s'est donné à elle comme son épouse à qui il a tout donné, sous le mystère de la croix, pour qu'elle soit le rassemblement, c'est ça que veut dire le mot Église, de tous ceux qui croient en Dieu. De tous ceux, pour que l'Église soit, comme le dit ce texte, la lumière des nations. Alors oui, en ce moment, on peut se dire, en France, d'abord l'Église, elle dépasse les frontières, hein, c'est vrai qu'il faut accepter que l'Église n'apparaît pas aujourd'hui pour le monde une lumière. C'est vrai. Et ça fait mal. Alors, soit on se désespère, on se dit, oulala, bon, ce que font un certain nombre, mais je trouve ça un peu lâche, se cachent, continuent à pratiquer leur vie chrétienne, parce qu'ils ne se voient pas ne pas pratiquer, mais c'est une autre schizophrénie, mais en fait, les problèmes de l'Église, ce n'est pas les miens. Ben si, c'est les vôtres. Jean-Lamy en parlera cet après-midi, nous sommes tous responsables, donc c'est les vôtres. Il y a quelque chose qui appartient profondément à votre nature. À partir du moment où vous avez été baptisé et confirmé, ce qui se passe dans l'Église vous concerne. Alors, après, chacun a son degré et son niveau de responsabilité. Certains, ben, c'est ce que font les évêques, essaient de porter cette responsabilité en communion avec le pape. Il y a des gens cachés dans le secret de monastère qui prient pour la sanctification de l'Église. Il y a ceux qui sont dans l'Église comme laïcs qui essayent d'apporter cette lumière, comme une goutte d'eau, comme pour que le bien, et c'est-à-dire que ce qu'est l'Église, celle qui conduit au Christ, et celle qui apporte, parce que c'est ça le mystère de l'Église, le mystère de la grâce. Et donc, vous voyez, si nous nous arrêtons, d'abord, c'est important de se dire que je ne serai rien sans l'Église. C'est fort de se dire ça. Je ne serai rien sans l'Église. C'est-à-dire, je n'aurai pas la grâce, parce que j'espère que vous le disiez comme ça, la grâce de savoir qui est le Christ. Or, c'est l'Église qui m'a conduit au Christ. C'est l'Église qui me permet de croire au Christ. C'est l'Église qui me permet de croire qu'il est mon sauveur. C'est l'Église qui me permet de croire que je peux être sauvé. C'est l'Église qui me permet d'être un homme debout. C'est l'Église qui me permet aujourd'hui d'éclairer ma conscience. Alors oui, à certains moments, l'Église éclaire ma conscience en me bousculant. Mais elle m'apporte la paix, elle m'apporte la miséricorde. Et cette Église, donc vous voyez, elle est d'abord et avant tout un lieu de vie, un lieu de grâce, un lieu de vérité. Malheureusement, à commencer par moi-même, que chacun d'entre nous a des degrés différents. Donc, de fait, il y a de ceux qui essayent d'être cohérents, en tout cas d'essayer de tendre vers cette sainteté, parce que c'est ce qui fait que l'Église vit, c'est cette sainteté. Et puis, il y a des gens qui se sont servis de l'Église, de leur pouvoir, de leur autorité, pour se servir et pour la défigurer. Et c'est là où, comme dans tout période de l'histoire de l'Église, alors il y a une formule qu'on cite, mais qu'il faudrait bien réajuster, on dit « l'Église n'a pas besoin de réformateurs, mais elle a besoin de saints ». C'est une phrase qui vient de Bernanos, qui dit que dans les périodes d'Église, vous voyez, du temps de François d'Assise et de Dominique, l'Église était riche, l'Église dans la société avait tous les pouvoirs, et beaucoup se disaient « est-ce que c'est ça l'Évangile ? Est-ce que c'est ça l'Évangile ?» Et donc Dieu s'est choisi, et ils y ont répondu à cet appel, un homme comme François d'Assise qui dit « je vais réparer l'Église, à ma place, toute ma place, rien que ma place, je vais œuvrer », et c'est ce qu'ils ont fait. Dominique, François, ont été, et derrière eux, des millions d'hommes et de femmes ont suivi ce chemin de retour à l'Évangile. Parce que quand l'Église, ou les gens de l'Église, ceux qui font l'Église, s'éloignent de la source, elle se défigure, et elle ne remplit plus sa mission. Elle ne remplit plus la mission qu'elle doit dans le monde, c'est-à-dire être une lumière. Et comme dit le pape François, une maison, j'aime bien cette expression, une maison sûre. C'est beau comme expression, une maison sûre. Une maison où on se sent chez soi. Une maison. Et voyez, quand on confond les données, hein, je vais en donner une autre, quand on met au même niveau des combats politiques et des combats religieux, on se trompe. Et voyez, si j'allais au bout de mon raisonnement, il devrait y avoir des catholiques dans tous les partis politiques, à peu près. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle transcende les cultures, elle les dépasse. C'est pas une pensée unique, l'Église. Elle est, d'ailleurs, vous la trouvez dans tous les, dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les cultures. Et de faire qu'il y aurait un parti qui représenterait tous les catholiques, ben, ça veut dire qu'on ne croirait plus que l'Église est universelle. L'Église, elle les transcende, elle les dépasse, ou elle n'est plus elle, ou elle n'est plus l'Église. Parce que l'Église, c'est cet ensemble de croyants qui peuvent penser différemment sur plein de choses. Qui peuvent penser. Et donc, elle est, quand on dit qu'elle est une, on ne veut pas dire qu'elle est univoque ou uniforme. On veut dire qu'elle rassemble une multitude d'hommes et de femmes dont l'appartenance par le baptême en fait un peuple de rachetés. Ça s'appelle le peuple de Dieu. Parce que l'Église, elle est peuple de Dieu. L'Église, elle est épouse du Christ. L'Église, elle est le corps du Christ. Donc, vous voyez, autant d'expressions qui essayent à chaque fois de mettre en lumière quelque chose. Et je ne sais pas si vous dites... Vous êtes capable de vous dire « j'aime l'Église ». Est-ce que vous êtes capable de vous dire, dans le secret de votre cœur, « en fait, l'Église, je l'aime, je suis prêt à tout pour elle ». Vous connaissez tous cette expression de cette géante, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça », parce que c'était une femme de désir, Thérèse. « Je voudrais être apôtre, je voudrais être missionnaire, je voudrais être prêtre, je voudrais tout », elle voulait tout être. Et puis à un moment donné, elle écrit à sa sœur, elle dit « ma mère, dans l'Église, ma vocation ». Je l'ai trouvée, parce qu'elle avait deviné que si les membres de l'Église n'étaient plus animés de ce feu, de la source qui alimente le corps de l'Église, dans un corps, c'est le sang qui revient et qui repart du cœur, et qui fait que ce corps est animé. Eh bien, elle fait le parallèle, et elle dit, ce qui anime l'Église, c'est la charité. Et s'il n'y a plus la charité, l'Église se dessèche. Elle peut rester institutionnellement, et c'est un peu le drame, elle peut rester institutionnellement apparemment forte, mais en fait, elle n'est plus elle. Alors ça, c'est sa partie, je dirais, sa partie visible. Parce que dans sa partie spirituelle, l'Église est dans ce corps, il y a des membres du corps qui sont en ce moment malades, voire atrophiés. Et puis, heureusement, dans l'ensemble de ce mystère de l'Église, il y a des membres vivants. Et vous voyez, là où on parle de ces prédateurs, il y a des millions, là aussi, dans toute cette période qui a été analysée, de prêtres, de religieux, qui ont donné leur vie sans compter et qui ont fait du bien. Alors, certains disent, oui, mais voyez, justement, vu le nombre, il faut pas, le but, ce n'est pas de rentrer dans les statistiques. C'est d'être capable de regarder et de rendre grâce pour tout ce qu'il y a de beau et de l'aimer, cette Église, et de porter aussi, alors vous allez me dire, de quoi je suis responsable? C'est ce que je me suis dit, moi, je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait le mal qu'ils ont fait. Et pourquoi, moi, je dois porter cette responsabilité de ceux qui ont fait du mal? Voilà. Et pourquoi, nous, on va nous critiquer alors qu'on n'a rien fait, nous? C'est vrai, on pourrait dire que ce n'est pas juste. Mais c'est comme dans une famille, parce que l'Église est une famille, on porte le poids d'un héritage. Il faut être capable de porter un regard de foi pour voir que cet héritage est infiniment plus grand, plus beau, si on porte un regard de foi, mais aussi accepter que humainement, ce qui a été défiguré ou ce qui a été montré qui n'est pas beau aujourd'hui, il faut, d'une certaine manière, par notre sanctification, le donner autrement. Vous voyez, je vous donne un autre exemple. Il y a 60 ans, il y avait déjà quelque chose, la France était moins chrétienne. Et donc il y avait un rapport entre l'Église et le monde qui était en train de s'éloigner. Et beaucoup de chrétiens d'une génération, ce qu'on a appelé l'action catholique, est parti généreusement rejoindre ce monde, essayer de le rejoindre, pour dire, moi, à ma place de chrétien, je vais être une lumière pour ce monde. Parce que je dis que l'Église est la lumière des nations, mais l'Église n'est rien sans nous. Parce que chacun d'entre nous, d'ailleurs, ça peut paraître surprenant, dans une conversation, si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, à votre manière de rayonner, vous pouvez complètement changer le regard de quelqu'un sur l'Église. Je ne sais pas si on a conscience de ça. Vous pouvez aider quelqu'un par votre manière d'être, par votre manière de rayonner, par votre manière de vivre votre christianisme. Et j'entends quelquefois des gens qui se disent « Ouais, dans mes écoles, dans mes études, dans mon métier... » D'abord, quelquefois, ce n'est pas facile de dire qu'on est chrétien. Objectivement, je ne dis pas que certains, je vous plains, en tout cas, je sais que c'est dur. C'est dur, parce qu'il y a quelquefois, chez certains, beaucoup de violence. Chez d'autres, il y a de l'indifférence. Mais c'est sans compter d'abord que le Christ vous donne la grâce et la force d'être témoin, parce que c'est notre vocation de chrétien d'être témoin. Et contrairement à ce que vous pensez, là où il y a de la violence chez certaines personnes, ça peut être aussi des gens qui cherchent. Mais si vous ne portez pas cette responsabilité de dire vous êtes vous-même porteur de cette lumière, qui, si vous ne l'êtes pas, comment ils auront accès à l'Église ? Comment ils auront accès à l'Église ? Si vous-même, comme chrétien, parce que quel accès ils auront à l'Église ? Parce qu'ils entendent des médias ? Est-ce que vous avez conscience que peut-être que pour certaines personnes, vous serez le seul chrétien qu'ils rencontreront, vraiment ? Ça fait bizarre de se dire ça, mais... Parce que pour certains, vous serez peut-être... Il y a de moins chrétiens, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes le seul chrétien, la seule chrétienne ? Et donc que votre manière d'être, votre charité... Vous allez dire, oui, mais moi, je suis juste baptisé, je suis chrétien, qu'est-ce que je peux faire changer de l'Église ? Mais tout le mystère de l'Église, d'une certaine manière, peut être contenu dans votre foi. Hein. Si vous portez cette foi de l'Église, si vous êtes un membre, si un membre souffre, c'est toute l'Église qui souffre, mais si un membre rayonne, c'est toute l'Église qui va en rayonner. Donc il y a quelque chose de magnifique dedans, dans votre responsabilité. Et donc, voyez, et de ne pas se dire, la responsabilité de l'Église, et je pense que c'est une des forces de certains laïcs qui disent aujourd'hui, légitimement, nous sommes autant l'Église que les prêtres. Ben oui, je suis d'accord, c'est vrai. Et je pense qu'il y a plein de laïcs qui font bien plus de bien à l'Église que beaucoup de prêtres ou d'évêques. Et heureusement qu'ils sont là. Donc, vous voyez, c'est pas l'Église une hiérarchie. Alors, il y a celui qui appartient le plus. On dit qu'il appartient le plus, le pape, mais en fait, on ne fait que le critiquer. Je me demande où est la cohérence dans ces cas-là. Ensuite, je suis laïque, donc ça me permet, j'ai juste une chose, de commenter si je m'y retrouve à l'aise ou pas à l'aise. Je prends ce dont j'ai besoin. Donc, vous voyez, petit excursus. On a besoin d'un prêtre pour célébrer notre mariage, on a besoin d'un prêtre pour célébrer le baptême de nos enfants, on a besoin d'un prêtre là-dessus, mais alors après, démerdez-vous. Un petit signe, on célèbre des mariages, on se déplace, résultat, on va être capable de donner au photographe de le rembourser tous ses déplacements et de le payer. Le prêtre n'a pas besoin de le payer, pas besoin de payer le prêtre. Hein. Excusez-moi, j'ai juste traversé la France pour célébrer un mariage. Non, c'est pas gênant. Alors les gens me disent en général, mais... Il faut vous donner combien ? Regardez ce que vous avez donné au photographe. Voilà, c'est tout. Sans compter le temps et les heures consacrées. Voyez, c'est vis-à-vis. Regardez. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement généreux. La pauvre. Il y a des gens qui sont extrêmement généreux dans l'Église. Mais c'est une manière de vous poser cette question dans votre manière d'aimer. Un, dans l'amour, le premier signe de l'amour, c'est la gratitude et l'action de grâce. Donc, regardez. Dans votre vie, avant de regarder ce qui ne va pas, regardez comment, comme adulte, vous avez été capable de rendre grâce et quel esprit de gratitude vous avez à l'égard de l'Église pour tout ce qu'elle vous a transmis et donné. Alors vous allez me dire, mais comment je peux rendre grâce ? Bon, d'abord, c'est dans le secret de votre cœur. Déjà, de mettre d'une certaine manière, quand on grandit avec ses parents, alors qu'on est membre, nos parents sont nos parents, mais c'est ce que j'appelle, on met de l'altérité. L'altérité, c'est cette capacité de mettre un peu de distance, c'est ça la maturité, et se dire, oh, c'est incroyable tout ce que j'ai reçu. Alors qu'en fait, en même temps, on en fait partie. Donc vous voyez, c'est cette altérité qui fait que je regarde l'Église, et en la regardant, je me dis, oh, c'est incroyable tout ce que j'ai reçu de l'Église. Et de prendre le temps de voir ce que je suis, je le dois pour une grande part à l'Église. Et donc là, justement, alors après, il y a l'Église au sens le plus mystérieux du terme, puis après, il y a l'Église institutionnelle. Et là, j'ai le droit aussi d'être adulte, d'être dans une maturité et de me dire non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord avec ce qu'on m'a dit. Là je suis pas d'accord parce que il y a les grands drames qui s'appellent les grands abus de pouvoir ou les abus sexuels. Mais après il y a plein de lieux. Alors je pense moins qu'avant. Ça dépend les univers, parce qu'il y a des univers où on se soumet encore à l'Église, et puis il y a d'autres, tout est contesté, contestable tout le temps. Donc la ligne de crête entre le je conteste tout, je fais plus confiance et le reste, comment je me positionne comme adulte? Exactement comme avec vos parents. Si vous grandissez, avec vos parents, vous êtes capable de voir ce que vous leur devez positivement, mais vous êtes capable de porter un regard critique. Et c'est bon. Et il est bon qu'à travers vos parents, les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, tous ceux qui ont fait ce que vous êtes dans l'Église, vous êtes capable de porter un regard critique en disant « ça j'ai aimé, et ça je garde, parce que ça c'était chouette, et ça j'ai pas aimé, et ça je garde pas. » Parce qu'objectivement, que ce soit dans vos éducateurs, que ce soit dans là où vous avez grandi, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez avoir une grande et belle gratitude, et puis d'autres choses, non, je ne garde pas. Voilà. Donc ça, c'est la première chose dans l'amour de l'Église, c'est cette action de grâce, cette gratitude. Et après, qui peut passer par des choses très concrètes, dans la manière de dire merci à ceux qui vous ont transmis, à ceux qui vous donnent du temps, à ceux qui, dans l'Église, œuvrent pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Et pas de se dire, bon, c'est gentil, mais... C'est-à-dire, je prends, mais je donne rien. Voilà. Donc là-dessus, première chose. Ensuite, bon, donc il y a cette action de grâce et cette gratitude. Ensuite, il y a vous-même, en disant, mais moi-même, ce que j'ai reçu, comment je transmets? Alors, je transmets à l'intérieur, où moi, je ne me sens pas responsable, en fait. Vous voyez, moi, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, je ne vois pas en quoi je suis responsable de la transmission de l'Église. T'es du Christ ou t'es pas du Christ? Tu as à transmettre ou t'as pas à transmettre? Vous voyez, il y a quand même quelque chose dans ce mystère de l'Église. Et plus vous témoignez, parce que vous en avez tous fait l'expérience, parce que quand on porte un trésor qui s'appelle la foi, c'est d'ailleurs le catéchisme dit, quand il parle de la foi, il dit « Je crois, nous croyons ». Et la foi est un don de Dieu, mais qui ne peut se déployer que quand on est plusieurs. C'est le fameux « nous croyons ». Et vous avez tous fait cette expérience quand vous partagez votre foi, quand vous en témoignez, ou entre croyants, il y a quelque chose qui vient conforter cette foi, ou quand vous la, d'une certaine manière, vous la prêchez, vous en témoignez devant des gens qui n'ont pas la foi, et tout à la fois quelque chose d'un risque que vous prenez, et en même temps, quand vous l'extériorisez, vous prenez plus la mesure de ce qui vous habite. Vous voyez, la foi, c'est une relation à une personne vivante qu'est le Christ. Eh bien, alors on a de la pudeur, c'est sûr que c'est difficile d'aller dire à quelqu'un d'extérieur, bah ouais, moi en fait, je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis du Christ. Ah oui, c'est ça, toi tu appartiens à cette église avec tous ces prêtres pédophiles. Le gros résumé terminé. Bah ouais, mais votre manière de dire, bah oui, c'est peut-être ce qu'on dit dans les médias, mais si vous témoignez ce que vous avez vécu, reçu, et s'il y a un lien de confiance et d'amitié, d'ailleurs, heureusement, hein, vous voyez, il y a ce drame, mais pour avoir un certain nombre de frères prêtres, dans le ministère, les gens continuent à mettre leurs enfants au catéchisme, continuent à faire confiance à l'Église. Donc c'est quand même aussi, il y a une espérance, parce que on peut dire ce qu'on veut, et de fait, il y a des choses qui, au niveau médiatique, sont exprimées et dites, mais dans le secret des cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez entendu la polémique qu'il y a eu après le rapport Sauvé autour du secret de la confession, oui, il y a eu cette polémique qui a été lancée, mais Mgr Moulin Beaufort, courageusement, a rappelé ce qui fait partie de la foi, et a rappelé que c'est justement parce qu'il y a ce secret de la confession, et que grâce à la confession, et grâce à ce secret, et grâce à cette invention merveilleuse du Seigneur d'avoir inventé ce sacrement, que des millions, j'insiste bien là-dessus, des millions d'hommes et de femmes ont retrouvé la paix du cœur, ont pu dire ce qu'ils avaient souffert. Et moi, j'en suis un témoin, comme beaucoup de prêtres, de ce que la confession a donné comme cadre, comme espace, pour que des gens viennent confier leur joie, leur peine, leur détresse, leur souffrance. Donc, on pourrait dire que la confession est le lieu où on vient confesser son péché, mais je dirais aussi, beaucoup de gens sont venus confesser le fait d'être victime dans ce secret de la confession. Vous voyez, et bien c'est pareil. Regardez ce trésor de la confession, qui est un des lieux importants. Alors certains étaient en train de se battre, ouais, l'État, la République française ne croit pas au secret de la confession. D'accord, j'ai ça à quelqu'un l'autre jour. Il était en train de se mettre dans un espèce de combat. Et je lui dis, tu ne t'es pas confessé depuis combien de temps? Ah, d'accord. Donc là, tu es parti pour me mener un grand combat sur ouais, il faut défendre le secret de la confession. Et toi, tu n'en fais pas un lieu où tu te confesses régulièrement. C'était pas cohérent. Voilà. Confusion entre ce que j'appellerais du combat politique et du combat spirituel. Or, j'insiste là-dessus, l'Église transcende, dépasse toute culture humaine. Elle en fait partie, mais elle les dépasse. Je vous donne un grand saint qui a vécu un traumatisme énorme, Saint Augustin. Saint Augustin, on est à la fin du IVe siècle. C'est la fin de la grande civilisation romaine. Les Vandales, un certain nombre d'autres arrivent à Rome, vont passer par là, ils vont mettre à terre cette grande civilisation, le grand empire romain. L'Église était un peu liée à cet empire romain, puisqu'il y avait ce lien qui était fait depuis le 313. Mais l'Église a rebondi. Hein. L'Église, elle a traversé. Hein. Ce qui ne veut pas dire que c'était dur. Donc, bien sûr, par exemple, par rapport à notre pays, aujourd'hui, on peut souffrir de voir un certain nombre de choses. Et ça me fait souffrir. Mais, comme chrétien, on appartient à un pays, mais on est aussi, d'abord avant tout, de cette Église. De cette Église qui nous demande d'être là où on est dans un instant et un espace, ce signe fort. Et c'est ce qui nous renvoie, vous voyez, notre amour de l'Église. Dis-moi comme t'aimes l'Église, je te dirai comme t'aimes le Christ, en fait. Et dis-moi comment t'aimes le Christ, je te dirai comme t'aimes l'Église. Comme dit Jeanne d'Arc, du Christ et de l'Église, c'est tout un. Alors, vous voyez, quand je dis l'Église là, je crois en l'Église dans sa partie invisible, spirituelle. De la même manière que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, dans l'Église, qui est une, elle a une part, vous l'aurez donc bien compris, spirituelle, divine, c'est l'épouse du Christ, c'est celle qui est l'ensemble, c'est cette communion de grâce, et elle, parce que nous sommes humains, elle a sa part humaine, c'est d'institution. Et quand on regarde, c'est là, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde l'Église, sur ses 2000 ans, donc ça c'est vrai sur l'ensemble de l'Église, mais quand on la regarde dans certains pays, l'Église dans certains pays, elle est proche des pauvres, proche des petits, elle remplit sa mission, et dans d'autres lieux, elle s'est quelquefois, un certain nombre de gens dans l'Église, éloignée de la source, éloignée de l'Évangile. Et bien, vous voyez, pour nous, dans notre manière de vivre notre foi, les extraterrestres, parce qu'on vit comme si on était dans un pays qui était encore chrétien. Notre pays n'est plus chrétien, il faut se le dire une fois pour toutes. Donc, on est des extraterrestres. D'accord ? Donc, il faut l'accepter. Le but, c'est pas de dire « ils sont méchants » et on est un petit reste de gentil. On doit se dire, c'est ce que je crois, nous avons la grâce d'avoir reçu le plus beau cadeau qu'on puisse donner à un être humain, c'est celui de la foi, de l'espérance et de la charité, et ma vocation, c'est de le partager. Parce qu'au fond, la vocation de l'être humain, c'est d'être dans une proexistence, c'est-à-dire dans un don de soi. Et l'Église, alors, c'est ce que le pape nous rappelle, alors certains critiquent, mais je trouve que sa manière de dire est extraordinaire, quand il dit que l'Église doit être aux périphéries, l'Église doit être en sortie, c'est la vocation du chrétien et donc de l'Église. C'est sa nature propre. Sa nature propre, c'est la Samaritaine qui va dire « j'ai rencontré le Seigneur ». C'est la nature propre de l'Église et du chrétien de sortir et de montrer le visage du Christ. Elle est faite pour cela, l'Église, pour être justement. Quand le Concile Vatican II, en parlant de l'Église, dit cette chose magnifique, c'est les premiers mots de l'Église, qui ramène tout de suite à l'essentiel, en disant le mystère de l'Église. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment annoncer à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ. Et vous voyez, en lisant ces textes, dans le contexte actuel, on dit, oula, il faut avoir de la foi pour y croire. Hein. Je dis, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Le visage de l'Église aujourd'hui en France. Alors, si on regarde d'un point de vue médiatique, on se dit, oula, le visage qu'il est montré. Bon, ça, c'est si on se laisse déborder par un unique regard médiatique. Mais si je suis porté de cette foi, je vais pas nier que certains dévisagent l'Église, mais je peux aussi regarder tout le bien qui s'y fait, et dont ensuite, moi-même, à ma place, je dois être. Je vous rappelle que quand l'Église est née, il y a 2000 ans, c'était comme une équipe de bras cassés, avec les 12 apôtres, les saintes femmes qui étaient là au pied de la croix, quelques bons hommes, quelques bonnes femmes. Quand Saint Paul fonde des communautés chrétiennes et qu'il écrit aux Romains, la communauté des chrétiens romains, ils étaient 50 ou 60. Quand on dit l'épître aux Galates, l'épître aux Philippiens, les Philippiens chrétiens auxquels Paul écrit, c'était peut-être une centaine de personnes. Hein. Voilà, l'Église des nations. C'est... Alors, vous voyez, et pendant quelques siècles, l'Église, c'était ce qu'on appelait des communautés chrétiennes, des communautés qui se disaient l'Église des nations. Quand saint Augustin est en train de prêcher sur la cité de Dieu, ou la cité des hommes, c'était une Église qui était en train, qui pensait qu'aïe, certains pensaient que c'était fini. Rome tombant, l'Église était finie. Et dans ces temps où l'Église était persécutée, il y a eu d'autres périodes où l'Église était persécutée injustement, d'autres quelquefois justement, il y a toujours eu, et il ira jusqu'à la fin des temps, parce que l'Église est éternelle. Voilà. Donc l'Église ne mourra pas. Elle n'a peut-être plus la place qu'elle a eue, elle en aura peut-être moins, mais elle ne mourra pas. Parce que quand il y aura toujours au moins deux chrétiens, il y aura toujours l'Église. Et elle sera toujours là. Donc il y sera toujours cette lumière, c'est ce qu'on appellera peut-être un jour ce petit reste. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse et des persécutions, on le retrouve. Vous voyez, donc de se dire que l'Église, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité, c'est-à-dire son Fils, et son Fils ayant donné l'Église, il y a quelque chose qui est extrêmement réconfortant. Et vous voyez, ce qui évite de se laisser gagner par une forme de désespoir ou une forme de résignation, parce que le Satan, le diviseur, comment il va vous tenter aujourd'hui? Comment il cherche? Bien, par le poison du désespoir, par le poison encore plus grave pour certains de l'indifférence, ce n'est pas mon problème. Bah, c'est grave que ce n'est pas votre problème. Je ne sais pas, si certains l'ont déjà fait, de vous confesser sur votre rapport à l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà confessé, dire « j'aime pas assez l'Église ». En gros, je n'aime pas assez. Hein. J'aime pas assez l'Église. Ou j'ai dit du mal des gens de l'Église. Ou je n'ai pas pris ma place dans l'Église. Vous voyez, parce que quelquefois, on se concentre ce qu'on appelle les péchés qu'on fait, ce qu'on fait de mal, mais dans notre foi, il y a aussi ce que j'appelle les péchés par omission. Les péchés par omission, c'est tout le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Alors, Dieu est grand. Mais vous imaginez dans votre vie, quand vous arriverez au ciel, et que le Seigneur vous fera défiler tous les gens que vous aurez croisés dans votre vie. Et puis devant chacun, il vous dira, mais t'as pensé à parler de moi? T'as été un exemple. Alors, le but, c'est pas toujours, vous voyez, là aussi, j'insiste, ne culpabilisez pas si, immédiatement, quelquefois, vaut mieux créer un lien d'amitié et d'humanité avant d'aller saouler les autres et d'aller tout de suite dire « je suis chrétienne » et imposer votre foi. Le but, quelquefois, de tisser ce lien d'amitié, vous voyez, je pense à quelqu'un qui me disait qu'il a vécu, qui n'était pas croyant. Il rendait service avec des sœurs de Mère Teresa. Pas une fois, ces sœurs de Mère Teresa, bon, elles sont religieuses, ne l'ont saoulé sur « tu devrais te faire baptiser, tu devrais te faire ci », rien, à rien. Elles ont juste été elles. Eh bien, ce gars, après, à travers telle ou telle circonstance, s'est converti. Mais parce que ce contact avec les sœurs, il y avait quelque chose de tellement humain, et ce qui est humain est chrétien, au fond. Ce qui est humain est chrétien. C'est-à-dire que, parce que, en fait, quand Dieu nous donne la grâce, c'est Charles Péguy qui dit ça, la grâce, c'est quoi? C'est ce qui vient guérir notre humanité. C'est ça, la grâce. Pourquoi on a besoin de la grâce? C'est ce qui vient guérir notre humanité et faire que nous sommes plus hommes et femmes, c'est-à-dire nous bonifier. C'est ça, la grâce. Et bien, d'une certaine manière, plus j'essaye de faire ce bien, plus j'essaye d'être témoin dans cette Église, plus je suis à ma place et plus je rayonne. Donc, regardez là où vous êtes à votre âge et regardez très concrètement, parce qu'il y a le rayonnement, et comment vous rendez service dans l'associatif, dans la prière, direct ou indirect, parce qu'il peut y avoir de l'associatif, je dirais, non confessionnel, qui est aussi une belle manière de rayonner dans l'Église. Vous voyez, les séminaristes ici, il y a certains qui ont un apostolat directement confessionnel, et il y en a plein, alors au départ ça les surprend, qui sont aussi dans des apostolats non confessionnels. Il y a l'épicerie sociale qui correspond un peu au resto du cœur, il y a l'aide à la lecture. Et volontairement, je leur dis, alors vous allez dire, ça peut paraître bizarre que vous disiez ça, le but, c'est de ne pas être prosélyte, c'est pas d'aller annoncer votre foi. C'est de rendre service humainement, et simplement humainement. Ben, quelquefois, il y a beaucoup plus de joie à le faire, parce qu'il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour le dire, et puis il y a un temps pour servir. D'ailleurs, c'est ce que le Christ a fait. Si on marquait le Christ, il y a des moments donnés, le Christ a prêché, donc il a vraiment annoncé la bonne nouvelle, et puis à des moments donnés, il a juste guéri. Il a juste fait du bien humainement. Le Christ a fait les deux. Il nous invite aussi à faire les deux. Il y a un temps pour servir, et il y a un temps pour annoncer. Alors vous me direz, oui, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est là où nous avons reçu, vous avez reçu théoriquement, j'imagine que vous êtes tous confirmés. Alors vous pouvez dire, ouais, je n'ai pas choisi d'être baptisé, mais je pense que vous avez choisi au moins d'être confirmé. Et si vous avez été confirmé, vous avez reçu la grâce de cette confirmation qui s'appelle la grâce de l'Esprit-Saint. La grâce de l'Esprit-Saint qui est l'animateur au sens qui anime la vie de l'Église et qui anime votre vie. Et c'est lui qui fait le lien avec la charité pour vous mettre en lien et pour vous faire prendre votre place dans l'Église. Eh bien, vous voyez, quand on s'active au sens dans l'Église, quand on s'active, c'est-à-dire quand on s'anime et qu'on se laisse animer et agir par l'Esprit-Saint, eh bien, alors, ce qui concerne l'Église vous touche. Et en vous touchant, vous dites, bon, ce qui vient de se passer, ce n'est pas un petit événement dans l'histoire de l'Église en France, c'est un événement grave, très grave, qu'on ne peut pas nier. La question, c'est de se dire, moi, à ma place, j'en fais quoi? Avec qui j'en ai parlé? Est-ce que j'en ai parlé? Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Et de prendre vos responsabilités à votre place. Alors, c'est une devise chez nous. On dit toujours, à sa place, toute sa place, rien que sa place. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans l'Église pour faire qu'elle soit davantage cette lumière des nations? Mais qui vous renvoie au fait, au fond, à votre foi d'abord plus personnelle, même si la foi personnelle est toujours ecclésiale, de se dire, mais au fond, est-ce que le Christ est le centre de ma vie? Parce que si le Christ est le centre de votre vie, alors forcément ce qui touche l'Église vous touche. Mais si ce qui s'est passé dans l'Église ne va pas toucher, c'est que le Christ n'est pas le centre de votre vie. C'est une certitude, ça c'est lié. Parce que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Donc forcément, quand un des membres souffre, parce qu'on peut être animé, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aujourd'hui, ce qui n'est pas reposant, mais je suis animé par des sentiments de colère, d'incompréhension, de souffrance, de cris vers Dieu, d'énervement, enfin, c'est pas encore clair dans ma tête parce que, et dans mon cœur, parce que je trouve que... Et dans cette récollection, vous voyez, le fait de vous partager cela, de vous dire, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est pareil, quand j'entends, ça me met de plus en plus en colère, des gens qui critiquent le pape François, j'ai envie de sortir je sais pas quoi pour... Je l'ai dit tout à l'heure, je comprends qu'on ne comprenne pas tout. Par contre, qu'on critique n'importe comment, ça j'aime pas. Je peux vous dire qu'ici, il y a un séminaire qui commence, ça s'appelle le mauvais esprit. Et le mauvais esprit, quand il y a du mauvais esprit, le diable est derrière, toujours. Quand on a des choses qu'on ne comprend pas, j'insiste là-dessus, je dis, ce qu'on ne comprend pas, c'est une chose. Et on reprochera, j'ai dit à un séminaire, je ne te reprocherai jamais d'avoir du mal, de ne pas tout comprendre. Ça, je le comprends. Je comprends qu'on ne comprenne pas tout. Parce qu'on n'a on a pas la mesure des choses. Par contre, ce qui me met en colère, c'est quand on dit du mal et qu'on ne fait pas du bien, parce que ça veut dire qu'on commence à diviser. Il y a ce qu'on appelle un esprit critique au bon sens du terme, mais un esprit critique qui est un esprit du diviseur. Et le diviseur, il est venu pour justement toucher à cette unité de l'Église. Et vous voyez, si je professe ma foi tous les dimanches pour dire que je crois en l'Église, une, est-ce que je suis un artisan de l'unité, moi-même à ma place? Sainte, est-ce que je fais tout pour être un saint? Catholique, c'est-à-dire universel, est-ce que je suis capable de rentrer dans ce mystère de l'universalité de l'Église qui essaye d'aller partout? Et romaine, attachée au pape. Vous voyez les notes, ce qu'on appelle les quatre notes de l'Église. Les quatre notes de l'Église, je faisais trop... Les quatre notes de l'Église, une sainte catholique, apostolique et romaine, justement apostolique, c'est aussi le lien aux évêques et à l'Église institutionnelle, c'est de montrer que je professe, que je crois en cette Église, et ma profession de foi, c'est-à-dire mon attachement, ma confiance, parce que c'est ça la foi, c'est une confiance, eh bien, j'en suis un acteur. Et là, je suis dans la cohérence. Et là, je rentre dans le mouvement, ce que j'appelle, où je suis vivifié, c'est-à-dire je suis animé. Autrement, si je suis un corps, et le risque, et qui me met dans une posture un peu à l'extérieur, je me dessèche. Et vous vous souvenez ce que dit Jésus dans l'évangile du chapitre 15 de Saint Jean, parce que comme bon chrétien, vous connaissez parfaitement votre évangile, hein ? J'en doute pas une seconde, parce que évidemment, dans le mystère de l'Église, c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, que vous connaissez bien, que vous lisez tous les jours, je n'en doute pas une seconde. Donc quand je vous dis, à des adultes que vous êtes, le chapitre 15 de Saint Jean, vous voyez tout de suite de quoi je parle. C'est le chapitre sur la vigne véritable. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, on l'émonde pour qu'il donne davantage de fruits. Et le sarment sec, vous savez ce que fait le Seigneur. À un moment donné, il viendra, il prendra un sécateur, il prendra le sarment sec et il le jettera au feu. Voilà. C'est ce que... En fait, il ne fera que acter ce qu'on a été. Et voyez, on va rentrer dans une période particulière, et je ne doute pas que certains seront passionnés par les débats sur la présidentielle. Avec un engouement pour telle ou telle personne, je ne suis pas là pour faire de la politique, ce n'est pas ma vocation à moi, mais comme laïc, certains le feront peut-être. Mais c'est intéressant de voir dans ces cas-là comment certains sont capables de prendre fait et cause pour telle ou telle cause. Mais vous avez le droit, c'est très bien. Mais est-ce que vous en faites autant pour votre mère qu'à l'Église ? Ma mère, l'Église, qui a besoin aujourd'hui d'être consolée, qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être servie. Vous voyez, et si je vous fais prendre ces formules, de dire tout simplement, est-ce que j'aime l'Église ? Est-ce que j'aime ma mère qui est l'Église ? Est-ce que je me sens membre de l'Église ? Est-ce que je suis fier d'appartenir à ce peuple de Dieu ? Et autrement, vous voyez, et c'est pour ça que je voulais vous faire descendre un peu plus en profondeur, une chose est de vivre à la surface, mais c'est notre vie. Nous sommes des êtres de chair, avec notre sensibilité. Les médias jouent beaucoup sur ce registre, et pour une part, c'est légitime. Mais est-ce qu'à certains moments, je suis capable de descendre en profondeur, nourrir ma foi de cette profondeur, vous voyez, et dans cette foi et dans cette profondeur, de la regarder avec une responsabilité. Et là, vous allez vous dire, ah oui, je me rends compte que j'ai une responsabilité plus grande que je l'imaginais. Donc, puisqu'il y a cette altérité, donc je vous poussez, vous, à regarder l'Église, donc je ne suis pas l'Église, mais je vais essayer, justement, dans cette altérité, l'Église pourrait vous dire, qu'est-ce que tu fais pour moi ? Tu m'aimes ? L'Église, alors ça peut paraître bizarre parce que je suis dedans. Je suis dedans, en même temps, il y a cette altérité, mais c'est tout le mystère de l'amour, qui est tout à la fois un lien d'unité et en même temps d'altérité. C'est tout le mystère même de l'amour. Et l'Église qui vous regarde, comme sa mère, et qui dit, mon fils, ma fille, tu vois bien qu'en ce moment, c'est dur. Tu fais quoi pour moi ? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi ? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble, justement, pour le monde ? Parce que la vocation de l'Église, c'est d'être la lumière des nations. C'est d'être le sel de la terre. Et d'ailleurs, si Jésus utilise ces deux images qui se complètent, une, la lumière, c'est visible, une autre, le sel, c'est caché. Donc, vous avez des saints qui ont été des lumières au sens extérieur du terme, pour le monde, et puis vous avez, alors, je pense au contemplatif, mais il n'y a pas que, il y a plein de laïcs cachés qui ne font pas de bruit et qui, heureusement, font que l'Église, que sa partie, je dirais, spirituelle, peut effectivement être vue. Que le visage de l'Église reste dans beaucoup de lieux et heureusement qu'il y a beaucoup de chrétiens, de prêtres, de religieux, de religieuses, de gens qui, en se donnant et en étant animés de sainteté, fait que tout le monde n'a pas quitté cette maison sûre. Parce que même si, effectivement, certains l'ont quitté, d'autres ne la quittent pas et d'autres l'aiment. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que suffisamment de personnes ont aimé l'Église et aiment l'Église pour que vous-même, vous soyez, j'espère, fiers d'appartenir à cette Église. Parce que même si cette fierté, quelquefois, on ne va pas la dire. Et je pense aux séminaristes, souvent je leur disais, moi ça va, je suis prêtre depuis 22 ans, mais je pense à des gars qui rentrent aujourd'hui, qui veulent dire je vais donner ma vie pour être prêtre, pour servir l'Église. Et pour s'entendre dire prêtre pédophile, bonjour, qui a envie d'être prêtre aujourd'hui? Tu as une chance sur deux dans la rue. Alors, heureusement, ce n'est pas vrai. Il y a des lieux plus agressifs, c'est vrai. Il y a des lieux où il peut y avoir une suspicion. Mais dans le quotidien de beaucoup de gens qui vivent là où ils sont, il y a quand même, grâce à Dieu, quelque chose de cette bonté qui passe. Mais pour cela, l'Église, elle a besoin de vous. C'est votre manière de l'aimer. L'amour est actif. Hein. Donc si vous dites « j'aime l'Église » parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas. Tu aimes l'Église ou tu ne l'aimes pas? En fait, c'est la question. Tu aimes l'Église ou tu ne l'aimes pas? Il n'y a pas « j'aime ou j'aime ». C'est « j'aime ou j'aime pas ». J'aime l'Église ou j'aime pas l'Église. Alors si tu me dis « j'aime l'Église », prouve-moi que tu l'aimes. Autrement, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et l'indifférence est un non-amour. On est d'accord hein, là-dessus. L'indifférence est un non-amour. Donc après, que notre cœur soit partagé, une partie de nous qui aime l'Église, une partie qui a du mal à l'aimer, parce qu'elle nous oblige à nous décentrer de nous-mêmes, c'est tout le mystère de notre combat et de notre vocation. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Alors vous aurez deux autres conférences, une de Don Jean-Rémy, qui reviendra sur la notion de responsabilité, tous responsables, et puis Don Léonard qui vous parlera de l'Église vue par rapport au saint. Si je résume ce que j'ai voulu vous partager ce matin... c'est justement d'essayer de porter davantage un regard de foi, de comprendre que votre foi dans le Christ et dans l'Église, c'est tout un, et que maintenant, là, pour ceux qui le veulent, le Saint-Sacrement va être exposé, et que le plus beau trésor de l'Église, avec le baptême qui nous est donné, c'est évidemment l'Eucharistie. D'ailleurs, il y a une expression qui dit que l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. C'est un jeu de mots, mais parce que, en fait, historiquement, le mot Corpus mysticum en latin veut dire ou l'Eucharistie ou l'Église. Or, qu'est-ce que l'Église? Je finirai sur cette définition de Bossuet, que je trouve magnifique. Qu'est-ce que l'Église? C'est Jésus-Christ répandu et communiqué à travers le temps et l'espace. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué à travers le temps et l'espace. Et bien, vous voyez, il y a 2000 ans, des gens pouvaient, en voyant le Christ, voir Dieu. Eh bien, si je dis que Jésus-Christ s'est répandu, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué à travers le temps et l'espace, eh bien, là où il y a un chrétien animé de la vie de l'Église, alors quelqu'un peut faire l'expérience du Christ. Le Christ a besoin de nous. Ça s'appelle la sacramentalité, c'est-à-dire la dimension visible, justement. Et je me dis, mais pourquoi Dieu, quelquefois, a pris ce risque? C'est comme quand Dieu a décidé d'inventer les prêtres. C'est-à-dire que le Christ a voulu que des hommes le représentent à travers des humanités. C'est pour ça que nous, on a cette formule chez nous, on dit « Pour laquelle de mes misères le Seigneur m'a-t-il appelé ?» Je n'ai pas dit mes forces, j'ai dit « Pour laquelle de mes misères ?» C'est-à-dire mes pauvretés. Mais saint Paul lui-même l'avait déjà dit « C'est dans ma faiblesse que le Seigneur se déploie pour nous rappeler que nous sommes que des signes. » Mais le signe est important. Et je vous rappelle que rien n'est neutre et donc que vous êtes un signe ou un non-signe de la vie de l'Église, là où vous êtes. Et là, plus tard, quelqu'un dira « Mais tu as vu l'Église dans ta vie? Tu as croisé l'Église ?» Oui, il y avait un chrétien, une chrétienne, mais invisible. Le signal était fermé. Il n'y avait pas de signal. Donc, demandez cette grâce à l'Esprit-Saint aujourd'hui. Il y a Marie qui est la mère de l'Église, justement, de renouveler votre amour, ou de convertir votre amour pour ceux... il y a peut-être une conversion. Et puis ce soir, pour ceux qui se confesseront... de peut-être faire une confession que vous n'avez jamais fait sur cette dimension de votre vie. En fait, j'essaie d'avoir éclairé vos consciences pour la faire regarder aussi votre vie avec une responsabilité que vous n'aviez peut-être pas mesurée. Voilà. Ça s'appelle les droits et les devoirs du baptême. Ça marque toujours quand je célèbre des baptêmes, et qu'on pose les questions aux parents, vous voyez la responsabilité que vous avez comme parent à l'égard de vos enfants dans l'éducation chrétienne. C'est énorme, en fait. Énorme. Voilà. Merci pour votre écoute. Et puis donc, je vous invite. Je sais que certains sont contents de se parler, de se retrouver.